Bonjour à tous, on est sur Radio Libertaire 89.4. Je suis Pauline, je suis avec Maxime et Cassandre.
Bonjour.
Bonjour.
Et avec à la régie un lapin, Alex.
Salut.
Bonjour à tous, il est 16h33 en plein après-midi pluvieuse à Paris. Et on va commencer une petite émission sur Twitch, sur Internet, sur la radio, sur les radios libres et sur plein de sujets différents. On va commencer avec une petite introduction sur l'univers de Twitch.
Alors, l'avènement d'Internet ces 20 dernières années a totalement modifié le mode de consommation des médias par la société. La presse écrite est en déclin, les réseaux sociaux n'ont jamais eu autant d'importance et la télévision est de moins en moins consommée, surtout chez les plus jeunes. En effet, selon Médiamétrie, les 15-24 ans passent plus de temps sur Internet que devant la télévision, et souvent lorsqu'on parle d'Internet, on parle des réseaux sociaux. Depuis la crise sanitaire, le streaming s'est vu en pleine ascension, notamment sur la plateforme Twitch, et contrairement à son homologue de streaming vidéo YouTube, Twitch est surtout répandu pour ses diffusions en direct. Lancé en juin 2011, Twitch était à la base consacré à diffuser des jeux vidéo et des compétitions d'e-sport, mais en seulement 10 ans, la plateforme est maintenant étendue à tout type de contenu, que ce soit de l'information, du sport, du divertissement, de la musique et bien sûr toujours des jeux vidéo. Suite à cette diversification, la plateforme s'est vue gagner en visibilité et en 2019, Twitch représentait 72,2% du temps de visionnage des contenus en direct contre seulement 19,5% pour YouTube. Je vais redonner la main à Pauline qui va nous faire la transition avec la politique.
Alors bien sûr, avant la politique, il faut savoir qu'on a conscience qu'on est sur Radio Libertaire, que par exemple, beaucoup de spectateurs n'ont pas forcément connaissance de ces outils, de ces plateformes, etc. Donc on va essayer au mieux, en tant qu'étudiant, de vulgariser et de justement rendre accessibles ces sujets-là pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. Et donc du coup, d'essayer de faire en sorte. Mais hélas, des fois, on n'a pas forcément conscience et on a nos habitudes, en fait. Donc on ne pourra pas forcément rendre... Enfin, ce sera compliqué, c'est dur de rendre les choses accessibles.
On va faire de notre mieux, en tout cas.
On va faire de notre mieux. Donc Twitch, qui est une plateforme, comme tu l'as résumé assez bien, tu l'as rendu... Il y a plein de données, plein de stats qui sont là-dessus. Mais du coup, moi, je vais parler du côté un peu plus politique. Donc, Twitch s'est notamment fait de plus en plus connaître en 2020. Il est devenu très populaire avec, du coup, le confinement. Et du coup, par rapport au Twitch un peu plus politique, ça a commencé pour moi avec l'arrivée de Samuel Etienne sur Twitch. Et sur, ça fait partie des multiples facteurs qui ont permis à Twitch de se rendre légitime dans le champ médiatique et dans le champ politique. Et donc, ça a amené plein de politiques de plus en plus vers cette forme de communication. Les lives de Twitch. Donc, les politiques se sont présentés en tant qu'invités, beaucoup plus comme invités plutôt que eux-mêmes streamers. Streamers, c'est justement les personnes qui font des lives sur Twitch. Et Samuel Etienne, lui qui est un journaliste de France Télévisions, un animateur, c'est l'animateur de Questions pour un champion. Il a été animateur de Questions pour un champion pendant 20 ans. Lui, il est légitime dans le champ médiatique. Et avec sa venue sur Twitch, mais il n'est pas le seul, il y a aussi d'autres acteurs qui sont venus sur Twitch et du coup qui ont fait en sorte de rendre Twitch de plus en plus légitime. Ça a fait que, avec l'idée que Twitch est devenu légitime, des champs, des acteurs médiatiques, comme par exemple des acteurs politiques, j'arrive plus. Il faut m'excuser un peu parce que je suis un peu malade, donc si ma voix varie et change, c'est parce que j'ai la grippe. Et c'est les aléas du direct. Et il y aura bien sûr un podcast qui sera un peu mieux. Donc Jean-Luc Mélenchon arrive sur Twitch en 2020. Et ça a été un des points fondamentaux. Et j'arrive plus. Mélenchon arrive sur Twitch en 2020 et du coup ça fait que pour la première fois un acteur politique est devenu vraiment streamer sur la plateforme Twitch tout ça s'est un peu renforcé dans la campagne présidentielle de 2022 où en fait on a vu se multiplier les invités politiques et les débats sur Twitch et Cassandre fait partie de cette petite niche politique de Twitch. Maintenant, on va essayer de présenter un peu mieux Cassandre.
Alors, pour présenter Cassandre, alors après avoir intégré Sciences Po avec la volonté de devenir journaliste radio, tu réalises en regardant tes camarades filmer, et tu ne vas pas faire un master de journaliste finalement, mais tu décides de faire de la recherche, un master de recherche en sciences politiques, si je ne me trompe pas.
C'est ça, en relations internationales.
Ouais, spécialité relations internationales, et un mémoire sur les théories de la paix. Pourquoi ces théories ne se sont pas développées en France, contrairement aux autres pays ? Tu as connu l'errance que tous les chercheurs connaissent, surtout dans la recherche de financement. En parallèle, tu es de plus en plus présent dans les streams de Dany Eraz, une chaîne de divertissement et de débat. Aujourd'hui, tu as même ta propre chaîne Twitch qui rassemble en moyenne 500 spectateurs en direct et environ 7000 vues sur tes lives qui durent environ 4h30 à chaque fois. Tu fais environ 3 lives par semaine. Tu te définis aujourd'hui comme vulgarisateur Twitch de sujets LGBT, sciences politiques et actualités politiques. Tu es aussi militant politique pour la France insoumise. Tu réfléchis avec eux sur les questions des personnes LGBTQ.
Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton engagement du coup dans la France insoumise par rapport à justement ton début, et est-ce que ça a commencé dès le début, par exemple, comment t'as intégré Twitch, et du coup est-ce que c'était par rapport aussi à ton engagement à la France insoumise?
Alors c'est assez indirect en fait, donc comme tu l'as bien expliqué en fait, bah j'étais de plus en plus présent dans les chats donc de Dany Eraz, qui sont deux autres streamers, donc bah Dany qui est l'exemple aussi de youtubeur vulgarisateur notamment en philosophie, qui notamment à la faveur du confinement se sont plutôt reconvertis sur la plateforme Twitch, et que je suivais à son époque YouTube et que j'ai suivi aussi sur Twitch, donc j'étais de plus en plus présent dans son chat, et à un moment il faisait des espèces de radio libre auxquelles je participais, et à partir de ce moment là est née une collaboration pour écrire ensemble des vidéos sur les thèmes de la masculinité, voilà, les masculinités en général et tout, avec un angle évidemment plutôt queer. Et en fait, progressivement, du coup, bah, ça m'a motivé aussi à produire moi-même mon propre contenu. Donc, moi, c'est davantage, du coup, la rencontre avec Dany, et aussi le fait que, bah, du coup, cette errance, justement, à ne pas trouver de financement dans la recherche, et aussi à, j'étais aussi un peu dans une perte de sens vis-à-vis de l'idée de faire une thèse, dans le sens où c'est un travail universitaire sur des sujets qui intéressent pas grand monde et où je vais parler que dans un entre-soi de chercheur. Et c'est là justement que mon engagement politique informe beaucoup ce parcours-là, c'est que dans l'idée, enfin en tout cas dans la tradition militante que j'ai apprise notamment avec la France insoumise, il y a l'idée de massifier au maximum un discours et que le discours doit être utile et efficace au plus grand nombre possible. Et du coup, en fait, très très rapidement, je me suis dit que ça avait plus de sens, à la fois en renouant aussi avec mes premières amours du journalisme radio, mais aussi avec mon ambition de faire un truc un peu plus politique, et puis de creuser aussi dans le monde de la recherche et dans ce langage universitaire que je connaissais, bah, tout simplement de rendre tout ça accessible au public qui vient écouter sur Twitch, quoi.
D'accord. Donc tu viens de nous dire que justement, ce côté, par exemple, radio, t'avais intéressé dès le départ, et du coup avec lequel tu as essayé de renouer. Dès le départ, qu'est-ce qui t'a motivé à être journaliste radio ?
Alors c'est très très bête, hein, mais c'est que j'écoutais beaucoup beaucoup la radio. J'écoutais un peu Radio Libertaire d'ailleurs à l'époque. Simplement, il y avait la beauté des voix.
Pas la mienne en tout cas, là. Vraiment pas la mienne.
Ah, ça dépend, ça peut avoir son charme.
Mais non, c'était surtout la beauté de la voix et l'espèce de liberté qui avait l'air de s'en détacher. C'est-à-dire que quand t'écoutais des émissions de radio, alors peut-être que j'étais très jeune et très naïf, hein, mais quand j'écoutais des émissions de radio, j'écoutais beaucoup des émissions de divertissement, mais j'écoutais aussi beaucoup les infos. Alors les infos, on voit que c'est très cadré, qu'ils lisent leur script, etc. Mais dans les émissions de divertissement, j'aimais bien la liberté qui avait l'air de s'en détacher. Évidemment, on voit pas derrière, on voit pas les conducteurs qui lisent, on voit pas à quel point c'est timé, mais c'est vraiment cette idée de liberté-là que je voyais à la radio et que je voyais moins à la télé, par exemple.
D'accord. Justement, est-ce que je reviens en fait à Radio Libertaire et un peu ce côté radio libre. Tu as cité le mot radio libre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Alors, j'ai cité Radio Libre dans le sens où c'est un format qui d'ailleurs existait déjà à l'époque du standard, ou voilà, à l'époque de la radio, pardon, où t'appelles au standard et du coup t'interagis avec les animateurs. Et avec les formats sur Internet, ça s'est énormément démocratisé, notamment sur Twitch, puisque c'est plus simple avec tous les outils de plateforme de discussion où il y a beaucoup des canaux audio, où on peut faire on connaît Zoom, mais il y a aussi des canaux de discussion comme par exemple Discord, où tu peux discuter en vocal avec beaucoup de monde. Et ce qui permet du coup de renforcer cette interactivité côté-là et de pas simplement être un consommateur de contenu, mais aussi éventuellement interagir et tout. Bon, alors, il y a des radios libres qui sont plus sous l'angle de l'humour. Il va y avoir des streamers comme Rebé Déter et Amine Mathieu qui vont plutôt prendre du public en radio libre, parfois avec la caméra, pour se moquer un petit peu d'eux. Et puis après, ça va généralement durer une minute. Ils trouvent une vanne à faire sur eux. Et puis après, c'est plutôt comme support à leur humour qu'une véritable interaction avec le public. Mais tu vas avoir d'autres radios libres qui vont être un peu plus intimistes, souvent sur des sujets assez intimes comme, je sais pas, la sexualité, comme la vie quotidienne et tout, qui vont davantage être dans l'ordre d'une discussion entre l'animateur ou l'animatrice et la personne qui appelle.
D'accord, donc là on voit le côté radio libre, mais du côté de Twitch.
C'est ça.
Le côté radio libre, auquel je pensais aussi par rapport à Radio Libertaire, c'est avec le développement des radios libres dans les années 1970-1980, avec par exemple les radios prises pirates sur le côté en Grande-Bretagne, sur les mers de Grande-Bretagne, on a vu émerger des radios. Voilà, des radios assez spéciales qui sur un bateau avaient tout le matériel et qui diffusaient de la mer, car il était interdit de diffuser par exemple en France. Donc se mettaient aux frontières pour diffuser avec tout plein de mythes et de légendes par rapport à ces radios libres, dont Radio Libertaire a un peu émergé et subsiste. Et on a encore un peu de cet esprit-là au sein de Radio Libertaire, on va dire.
Et d'ailleurs, pour faire même un parallèle, cet aspect de la mer et même de la mer et du fait de jouer avec les eaux internationales, finalement, on retrouve beaucoup ça en fait sur Internet. C'est-à-dire que Internet, c'est un réseau qui est en partie international et en partie nationalisé, dans le sens où on voit beaucoup, même avec l'essor des VPN, l'idée de pouvoir interagir quelle que soit ta nationalité, parce qu'il y a certains pays qui restreignent certains contenus dans leur propre territoire. C'est-à-dire que voilà, Internet a aussi des frontières. Et du coup, il y a beaucoup justement dans ces nouvelles formes en fait de médias sur Internet, on retrouve aussi parfois ce jeu entre les différentes zones territoriales justement qui réexistent sur Internet, sur l'espèce de mer numérique, si je veux faire une référence à un vieux dessin animé pour enfants.
Code Lyoko, j'imagine.
Exactement.
J'adore. Oui, c'est vrai que Internet a aussi des frontières, que ça soit linguistique aussi. On t'a proposé, je sais plus, dans un stream par exemple, de faire des streams avec des acteurs. Anglais ou enfin états-unien, parce que justement il y a aussi un développement d'idées qui se font de leur côté, et d'une autre il y a cette différence des fois qu'on peut avoir sur l'état des lieux de la sphère politique et de la sphère internet c'est un peu obscur ce que je dis là, j'ai l'impression.
Dans le sens où par exemple les États-Unis, ils ont découvert le socialisme avec Bernie Sanders, globalement, mais ils ont aussi, plus massivement, en tant que consommateurs d'Internet, découvert le socialisme avec des streamers, comme quelqu'un qui s'appelle Hassan Abi, ou alors d'autres streamers qui sont venus plus tard, etc., et qui ont commencé à streamer avec un contenu radicalement de gauche, et qui ont fait, en fait, finalement, l'éducation politique de toute une génération qui n'avait pas ça, parce que, les États-Unis, on sait que, le communisme, historiquement, c'était pas, ils n'aimaient pas trop ça. Mais donc, il y a un véritable mouvement politique qui venait de là-bas et qui a créé aussi un foisonnement idéologique et un foisonnement de contenu spécifiquement marqué à gauche au travers d'Internet, parce que, finalement, il n'y a que là que la gauche peut s'exprimer, quoi.
Et on rejoint un peu sur la mer numérique et internationale, on peut rejoindre aussi ton master. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton master, qui est assez intéressant?
Oui, c'est un master de recherche à l'école doctorale de Sciences Po en relations internationales, donc ça fait partie de l'école des masters de sciences politiques, spécialité relations internationales. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait beaucoup au début, c'était la question des mobilisations internationales et en lien avec le régionalisme. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais fait une année d'études à l'étranger où j'avais été en Amérique latine dans une fac justement de recherche en relations internationales et qui travaillait beaucoup notamment sur la question du régionalisme et des blocs régionalistes contre-hégémoniques. Donc spécifiquement en fait de comment la gauche latino-américaine arrive à créer en fait des espaces politiques qui contre l'hégémonie états-unienne. Et du coup, c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé dans les relations internationales. Et très très vite, j'ai rencontré le domaine de tout un champ théorique que je connaissais pas du tout, qui s'appelait les théories de la paix, et qui donc provenait, comme d'habitude, des gauchistes d'après la Seconde Guerre mondiale, Johann Galtung, etc., qui, dans un contexte international où, post-Seconde Guerre mondiale, et post, surtout post-apocalypse nucléaire, enfin plutôt pré-apocalypse nucléaire, dans, plutôt dans leur tête, se posaient beaucoup la question de comment enrayer les conflits, comment maintenir la paix, etc. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que là où globalement tout ce qu'on m'enseignait des relations internationales était assez... Bon, on nous enseignait un peu des théories marxistes, des théories structuralistes et tout, mais... Bon, globalement, le champ des relations internationales est assez libéral, néolibéral, donc libéral pour tout ce qui est de l'Organisation des Nations Unies, avec cette organisation du monde assez spécifique, très tournée sur des normes juridiques et un monde assez codifié, assez spécifique, et finalement qui laisse très peu de place en fait au rapport de force, notamment avec les travailleurs, ou alors totalement néolibéral, où c'est carrément la force économique qui prime. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que dans ces théories de la paix, notamment ce Johann Galtung, il partait du principe que déjà, la paix peut être un objet scientifique sur lequel on peut faire, qui peut faire l'objet de recherche, mais en plus de ça, la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, l'absence de guerre, que la paix, c'est aussi l'absence de violence sociale, l'absence de violence culturelle, etc., etc. Et donc, en fait, ça, c'était potentiellement une façon de faire de l'agenda de la paix un agenda politique beaucoup plus large et qui questionne aussi les relations de domination économique. Mmh. Et du coup, c'est... Du coup, voilà, c'était voilà, coup de foudre avec ce truc-là. Et du coup, j'ai décidé de faire mon mémoire là-dessus, sur un champ du coup qui, pour des raisons notamment liées au développement de la science politique française, mais aussi à la méfiance envers, que ce soit, soit la méfiance parce que c'était trop des gauchistes ou alors parce que c'était trop des États-Unis en manteau, mais en tout cas qui ne s'est pas développé en France. Et du coup, voilà, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait qu'une idéologie, enfin, comment, pas qu'une idéologie, mais qu'un champ intellectuel ne se développe pas. Quelles sont les résistances au niveau d'un pays, au niveau d'un champ intellectuel pour empêcher, enfin voilà, de quoi ils ont peur, qu'est-ce qu'ils veulent promouvoir comme agenda contraire, etc. Voilà, c'était ce rapport de force-là et cette concurrence-là qui m'intéressait aussi beaucoup.
Du coup, t'en as pu aussi en conclure en fait les difficultés à trouver des financements de recherche.
Oui, c'est-à-dire que là où mon mémoire a donné les raisons et expliqué pourquoi les théories de la paix ne sont pas développées en France, pour ces mêmes raisons, j'ai pas trouvé de financement de thèse pour continuer sur le sujet.
Je trouve ça très malin quand même d'expliquer par son mémoire en fait, du coup le manque de financement par rapport à ce sujet-là. Et aussi, j'ai été impressionnée par la quantité en fait au niveau de ces recherches à l'international, parce que quand on s'intéresse vraiment, quand on lit de l'anglais des recherches universitaires anglaises, c'est vrai que ce sujet-là il revient pas mal. Alors qu'en France, justement, ton mémoire explique ce qui se passe un peu. Donc merci de cette contribution universitaire dans ce monde universitaire incroyable et pourtant périlleux pour certaines recherches, notamment en sciences politiques. Et les sciences politiques, ça nous amène aussi à ta volonté, en fait, ton objectif, enfin, tes objectifs, tes envies, en fait, par rapport à tes streams en tant que militant. Quelles sont tes envies, tes objectifs en tant que militant sur Twitch?
Alors, c'est vrai que moi, je conçois beaucoup la plateforme que j'ai sur Twitch comme une plateforme un peu de formation politique, de formation militante. Dans le sens où, bon, là, je prêchais un peu pour ma paroisse, mais bon, en ce moment, il y a toute l'affaire Quatennens, la question de la démocratie interne à la France insoumise. Et, bon, évidemment, en tant que militant de la France insoumise, je l'utilise aussi pour clarifier aussi les raisons d'être de tout ça, les positions, même peut-être l'histoire même politique de comment un parti politique se construit. Typiquement le fait que, classiquement, un parti politique se construit sur une espèce de constitution qui a un socle idéologique, avec des textes fondateurs. Alors on va piocher soit dans du Marx, du Engels, du Trotsky, du coup pour les Trotskys, de ce qui vient après, etc. Donc c'est ce socle constituant qui va après créer et faire émerger le programme proposé. Et en fait, par exemple, typiquement expliquer que la France insoumise, c'est la construction inverse. C'est le programme qui est le socle constituant, et après, de là, va émerger le reste de la stratégie. Et tu vois, typiquement expliquer ça qui est généralement pas expliqué dans les médias, qui, tu sais, quand tu lis un article sur la question de la démocratie interne, qui mentionne pas le fait qu'il y a des conventions qui sont tirées au sort, par exemple. Bon, même si, voilà, je vais prêcher pour ma paroisse, je dis pas ça pour convaincre, tu vois, mais dans le sens où voilà. Notre génération, enfin en tout cas, on a grandi avec une critique médiatique qui était évidente. Dans le sens où il y a une évidence selon laquelle les médias ils sont possédés par des milliardaires, etc. Il y a une évidence selon laquelle le service public bah c'est pas parfait parce que quand même le chef du service public est appointé par le président. Il y a une évidence là de cette critique médiatique qui dont des pionniers qui avec des pionniers qui l'ont rendue évidente comme Pierre Karl par exemple dont les documentaires sont absolument incroyables. Et voilà donc on a grandi avec cette évidence là de la critique médiatique et du coup moi sur Twitch je vois cette nécessité là du coup bah d'aller non pas comment dire, non pas faire du journalisme sur du journalisme, c'est-à-dire un peu prendre un article et décortiquer, ah tiens, tel homme politique, il n'aime pas tel homme politique, et du coup, voilà, comme un peu ce que font les journalistes de services politiques, de, oh là là, j'ai vu un tel à tel meeting, est-ce que ça veut dire qu'en fait, il n'aime pas un tel? Voilà, ce truc-là, un petit peu de politique people, voilà, je ne vais pas prendre un article du Monde et dire, oh là là, ça veut dire ça. Non, je vais essayer plutôt de décortiquer un petit peu ce qui se dit, mais surtout décortiquer ce qui ne se dit pas. Parce que, bah, en fait, très souvent, au final, la censure médiatique se définit plus par ce qu'il ne se dit pas que par ce qu'il se dit. Et alors, évidemment, j'assume mon côté partisan, dans le sens où j'appelle à ce que aussi, enfin, tout le monde fasse ça avec ses propres biais. Je veux dire, j'assume mes propres biais, je dis que je suis militant, je dis dans quel sens je veux militer, et bon. Voilà, si vous n'êtes pas content, aussi j'encourage aussi d'autres gens à faire de même, parce que, en fait, Internet, j'ai l'impression qu'on a grandi dans l'idée selon laquelle, qui est peut-être une idée un peu libérale, mais qui est peut-être aussi une idée un peu libertaire, que c'est pas tant trouver un point de vue qui serait la vérité sur un sujet qui permettrait de, je sais pas, de donner une bonne lecture du monde, mais c'est la multiplicité des points de vue que après, dans lesquels après on va piocher et dans lesquels bah, on choisit finalement ce qui nous plaît politiquement. Quoi.
De se construire un esprit critique.
Exactement.
Oui, d'accord.
Justement, par rapport à cette critique des médias, je voulais avoir ton avis sur les médias de masse, comme la télé, la radio. Ce que t'en penses, au niveau de l'information politique, quoi.
Ah, au niveau de l'information politique, ils existent. Comment dire ? En fait, c'est que je suis très peu consommateur de télé.
Ouais, c'est ce que je veux
dire. Sauf quand il y a des interviews d'hommes politiques que je regardais et tout. Enfin, je suis la télé un peu par défaut. Je suis un peu plus... historiquement, j'étais un peu plus consommateur de radio. Mais en effet, de par ma consommation des médias classiques, j'en ai ressorti une idée selon laquelle, les politiciens, tous pourris, les partis, ça ne nous amène nulle part, la démocratie, ça ne sert à rien. Globalement, c'était un peu ça, parce que tout ce que je voyais du monde politique, c'était justement cette espèce de politique people.
Ouais.
Mais parce que c'est normal, en fait, parce que les journalistes, ils ont l'habitude de croiser les mêmes responsables politiques quand ils vont les interviewer sur les plateaux. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu ça en direct, parce que je côtoyais beaucoup le public à l'époque sur Europe 1 de l'émission Europe 1 Midi de Wendy Bouchard où le public pouvait venir et poser des questions en direct. Et du coup, moi je venais très régulièrement parce que j'étais féru de radio et que parfois j'avais du temps sur le temps de midi. Et forcément, vous voyez, ouais, je croisais Alexis Corbière je sais pas combien de fois quoi. Et Alexis Corbière qui croisait je sais pas combien de fois la personne contre qui il débattait. C'était un lobbyiste avec des yeux bleus incroyables. Enfin, bref, je sais plus comment il s'appelait. Mais bref, donc tu vois très bien qu'à force de se côtoyer, forcément, ils vont davantage s'intéresser aux relations interpersonnelles, à une espèce de politique de connivence, que à essayer de, je sais pas, à décrypter le fonctionnement structurel. Parce qu'en fait, forcément, quand tu es face à ça et à cette relation interpersonnelle, bah, tu as l'impression, et d'ailleurs, c'est un peu l'impression aussi qu'on a à gauche, c'est que mettre à jour les structures de la société, mettre à jour, je sais pas, les structures politiques, de rapports de force économique, etc. Bah, tu le dis une fois, deux fois, trois fois, à un moment, t'as l'impression que c'est old news. Et c'est aussi un peu la déprime des militants de gauche, c'est qu'on a l'impression de répéter toujours la même chose. Donc, c'est logique que des journalistes, pour diversifier un petit peu leur contenu, se retrouvent et se réfugient dans cette politique people.
Après,
donc, pour moi, c'est un effet de la structure.
Aussi, pour préciser, dans nos études, on a pu apprendre justement que du passage à la, un régime du coup parlementaire à un régime plus présidentiel, en fait, avec ce passage-là, les journalistes, la place des journalistes a changé, et du coup, c'est redirigé vers un côté beaucoup plus justement personnel, people, etc. Et en fait, tout ça, ça se globalise. On peut voir aussi ce rapport-là au niveau plus du coup de chaque pays, en fait, au sein de chaque pays, en fait, avec les changements de régime, le champ médiatique, en fait, il évolue avec le champ politique. Et donc, en fait, moi, j'ai eu un cours justement de journalisme politique, et en fait, c'est extrêmement précis et complexe, et justement, on voit cette évolution vers une presse plus people et une presse beaucoup plus personnelle et psychologique. Avec, par exemple, beaucoup plus de journalistes femmes pour interviewer des journalistes, enfin des politiques hommes, car ils se livraient beaucoup plus, et ça montre aussi un peu la masculinité. Il y a toujours un rapport qui traîne là-dedans.
Toujours.
Mais voilà, en fait,
patriarcat est toujours un peu derrière.
Exactement. Du coup, on voit cette évolution-là. Mais je te laisse finir ton propos. Je ne sais pas si tu avais fini.
Non, mais c'est, j'avais fini. C'est un bon complément, justement, parce que typiquement, ça va me refaire venir à Twitch. Sur Twitch, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Massier qui a lancé, c'était même d'ailleurs avant le confinement, c'est un des plus vieux, un des premiers dans la niche politique Twitch, j'ai l'impression, qui a lancé une émission qui s'appelait Acropolis, où simplement, il regarde le direct de l'Assemblée nationale et il le commente. Alors lui, en plus, il a un background, il connaît un petit peu tout ce qui est droit constitutionnel, etc. Il connaît, il a bossé en politique, donc il connaît un peu tout ce qui est règlement de l'Assemblée, etc. Et du coup, il peut le vulgariser et l'expliquer, tu vois. Et ça, typiquement, le fait de s'intéresser à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, moi aussi, c'est un truc que j'essaie de faire quand il y a un grand débat, par exemple, typiquement, quand la loi sur le... Quand on a de criminalisation des squatteurs et des locataires qui payent plus leur loyer là, qui a commencé à passer, direct, je me suis dit j'ai vu ce que j'avais à faire, je vais me mettre sur le direct de l'Assemblée nationale et puis on va voir ce qui se passe, comment ça se confectionne la loi. Et en fait, il y a ce truc là, j'ai l'impression où ce besoin là un petit peu d'un dialogue politique et qui d'ailleurs, désolé parce que j'ai plein d'idées dans ma tête qui interagissent, parce que Jean Massier, quand il lance sa chaîne Twitch, évidemment, il est tout seul. Bon, il a quelques connaissances dans le monde politique, mais il est tout seul devant son ordi à faire son émission. Donc, pour entretenir aussi le contenu de l'émission, l'Assemblée nationale, c'est du pain béni, parce qu'il se passe des trucs tous les jours, on voit des trucs tous les jours, et t'as tous les jours des trucs à expliquer, parce que t'as tous les jours au moins un aspect du règlement intérieur qui est illustré, quoi. Et au fur et à mesure, par exemple, il a lancé l'émission Backseat, qui était plus une émission assez classique dans ce qu'on connaît des formats radio, des formats télé, sur un plateau, avec un moment actualité et surtout des interviews d'invités. Et c'est assez intéressant aussi de voir que même structurellement, le fait que sur Twitch, on soit aussi... on est moins accès justement à ces interviews-là, on est moins accès à la parole directe avec les responsables politiques, ça pousse à soi-même aller piocher dans l'actualité, aller piocher à l'Assemblée et aller s'intéresser concrètement à ce qui se passe et pas simplement rentrer dans l'aspect de « Ah tiens, je vais inviter, tel responsable politique parce qu'on parle beaucoup, tel responsable LR parce qu'en ce moment c'est le congrès des LR et du coup on veut savoir qui va passer. »
D'accord. Je te resserre un peu à boire parce que c'est vrai que moi j'ai un peu la soif des fois qui arrive. Donc Jean Massier, j'ai hésité à le mettre dans l'introduction parce que c'est vrai que c'est un acteur de la niche politique de Twitch qui est quand même vachement important et sur lequel il y a pas mal de débats aussi à faire. Mais finalement, comme on l'a résumé plus tôt, il fait partie aussi de ceux qui essayent de rendre cette politique des fois un peu neutre et donc d'effacer un peu certains propos ou certaines positions. Comme tu l'avais résumé, à un moment, tu te situerais plutôt entre Dany Eras, qui est plus du divertissement, du divertissement, information, etc. Et Jean Massier, qui lisse en fait cette politique. Donc, entre tout ça, il y a Cassandre. Et Cassandre, avec cette position, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit, par exemple, avec cette description de légitimation, cette stratégie pour rendre légitime Twitch, donc avec, par exemple, Samuel Etienne, avec justement cette introduction que j'avais présentée.
Alors oui, plutôt. C'est vrai que ce que tu as décrit de Samuel Etienne qui, en arrivant sur Twitch, légitime un peu la plateforme. Là-dedans, il y a une double légitimation, dans le sens où Twitch, à l'origine, en effet, c'est une plateforme de jeux vidéo, comme tu l'as dit, avec des acteurs qui sont des acteurs installés. Et le premier enjeu pour quelqu'un comme Jean Massier, ça a été de se légitimer auprès d'eux. Typiquement, quand on voit, je crois que c'était Zerator qui organise le The Event, donc un événement caritatif où tu as plein de gens qui stream en même temps pour récolter des fonds, etc. Généralement, c'est plutôt des streamers qui sont dans le divertissement, dans le jeu vidéo, etc. Et il avait eu des mots assez sévères envers les gens qui font un certain contenu qu'on appelle le react, en fait, qui consiste simplement à regarder une vidéo et à y réagir, que soit y réagir d'un point de vue humoristique ou y réagir comme ce que je fais moi. Moi, je fais du react plus de la vulgarisation où je vais décortiquer le truc. Parfois, quand je réagis à l'Assemblée nationale, je me moque aussi très, très fortement des gens, mais ça, c'est bon, parce que sinon, on s'emmerde. Donc voilà, donc typiquement, Jean Massier, qui était un petit peu dans ce truc-là aussi, où il faisait un peu du React, même si c'est du React très, très information, très actualité, un peu plus politique, il a dû déjà se légitimer auprès de ces acteurs-là, qui voyaient arriver justement cette niche politique comme une espèce de concurrence un peu bizarre, et aussi l'angoisse de l'arrivée de la politique sur Internet, dans le sens où... C'est une espèce de poncif pour la plupart des créateurs de contenu. Mais dès que tu mets un peu de politique dans ton contenu, bah, les annonceurs, les publicitaires, etc., qui sont le nerf de la guerre de l'économie d'Internet, ils s'en vont très très vite. Et c'était l'angoisse que Twitch, avec l'arrivée de plus en plus de streamers politiques, commence à se poser de plus en plus la question de sa politique de bannissement. Qu'est-ce qu'on autorise? Est-ce qu'on autorise l'extrême droite? Est-ce que du coup, si on autorise l'extrême droite, on autorise ce qu'on considère comme l'extrême gauche? Avec tout ça, un prisme très, très états-unien aussi sur ces choses-là. Du coup, cette angoisse-là que l'arrivée des streamers politiques, c'est aussi l'arrivée de la censure. Et l'arrivée un peu de la fin. Donc il y a cette première légitimation auprès des acteurs qui se méfient de la politique et qui ont un intérêt économique à être lisse. D'ailleurs même parfois un intérêt personnel parce qu'ils veulent pas ils veulent pas se mêler de tout ça. Et ensuite légitimation auprès des acteurs médiatiques extérieurs. Et ça c'est un autre problème ça, parce que pour le coup le fait d'être lisse est limite une bonne chose, dans le sens où si on présente Twitch comme la plateforme d'une horde de gauchistes qui viennent faire de la propagande, bon, c'est pas très légitime, c'est des gauchistes dans leur coin, voilà. Mais par contre, Samuel Etienne, lui, vient de la vraie télé. Voilà, lui, il fait une revue de presse et c'est très... Alors, encore une fois, moi, j'ai pas grand-chose contre Samuel Etienne. Je trouve que justement, ce qui est bien avec Samuel Etienne, c'est qu'il a réussi à se légitimer auprès des deux. Dans le sens où il a réussi à se légitimer auprès des gens qui ont grandi avec Twitch, enfin, des gens de Twitch, parce que c'est un bon animateur. Dans le sens où il y a pas mal de chaînes télé qui ont essayé de venir sur Twitch, je pense notamment à BFM TV, qui se sont totalement ramassées, parce que Twitch, il y a des codes. Il y a un chat où les gens écrivent en direct. Si tu n'interagis pas avec ton chat, ta chaîne est morte. Parce que ça se base sur l'interaction, justement, Twitch. Et Samuel Etienne utilise ça de façon assez intelligente. Il sait interagir facilement avec le chat, il sait prendre un message où il va expliquer un truc, etc. Il sait faire des blagues avec son chat. Donc voilà, il a réussi à intégrer cette culture-là de Twitch. Donc il a réussi à se légitimer là. Et auprès des grands médias, il a invité François Hollande, ce qui l'a légitimé en tant que voilà. Et ce qui, du coup, a commencé à poser la question aux acteurs politiques, mais donc avec Samuel Etienne, mais aussi avec Jean Massier, encore une fois, qui, avec son émission Backseat, commençait à inviter des responsables politiques, ce truc-là de « Ah tiens, Twitch, donc du point de vue des responsables politiques, Twitch, c'est les jeunes, c'est les fameux jeunes qu'on a perdus dans les médias classiques, c'est une part de marché potentielle, donc il faut qu'on commence à s'y intéresser. » Typiquement, quand Mélenchon commence à lancer sa chaîne Twitch, au début, c'est juste pour, comme il fait sur YouTube, hein, quand il fait des meetings, il le remet en direct sur YouTube, sur Twitch, sur toutes les plateformes possibles, parce que l'idée, c'est de toucher un maximum de monde sur toutes les plateformes possibles. Donc c'est vraiment, allez, on envoie partout, on envoie le flux partout. Mais l'émission qui a été faite un petit peu plus autour de lui, le Allo Mélenchon, c'était aussi dans cette optique-là de, bon, Mélenchon, il est assez connu pour avoir été le premier à avoir fait un blog, le premier à avoir fait une chaîne YouTube parmi les responsables politiques, on va dire mainstream et tout, le premier à s'être intéressé un peu à tout ça. Donc, c'était aussi logique que ce soit le premier aussi à se rompre à cet exercice-là. Et il a aussi plutôt réussi à rentrer dans ces codes-là, même si, bon, c'est un responsable politique, du coup, voilà, c'est pas ouf. Enfin, c'est voilà, on n'aime pas trop ça parce qu'on veut rester lisse. Mais, en tout cas, voilà, Twitch est beaucoup perçu comme un pool, une part de marché à prendre de la part des grands médias. Mais les consommateurs de Twitch le savent. Dans le sens, voilà, c'est ce que je disais sur la critique médiatique, c'est que la génération Internet a grandi dans le rejet de la télé et de la radio et des médias classiques pour une bonne raison. C'est aussi le mépris qui en émanait. Typiquement, voilà, le lien avec le jeu vidéo, puisque Twitch à l'origine est une plateforme de jeux vidéo, c'est la façon dont les médias traitaient la question du jeu vidéo, du développement de l'e-sport. Voilà, le fameux extrait de l'émission de Raphaël Enthoven où il montre une image avec des jeunes qui sont en pleine compétition d'e-sport. Donc oui, concrètement, tu vois des gens devant un ordinateur qui sont penchés. L'e-sport, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de... des réflexes, des trucs comme ça. Voilà, c'est une discipline qui est légitimée et surtout qui rapproche les gens d'Internet, tout simplement, parce que les consommateurs de jeux vidéo sont aussi beaucoup sur Internet, parce que c'est là où toute la production de contenu se fait. Donc ce mépris-là de la télé envers le jeu vidéo, etc., c'est aussi là-dedans que la génération Twitch a grandi, en fait. Donc quand on voit des journalistes ramener en se disant « Oh là là, on va choper les parts de marché chez les jeunes, on va faire des TikTok, on va essayer de choper les codes, etc. », c'est assez vite flagrant, en fait, et il faut vraiment le faire correctement, il faut vraiment le faire respectueusement pour ne pas se prendre une volée de bois vers BFM TV. Ils se faisaient troller leur chat tout le temps, enfin, c'était assez drôle.
Tu viens de parler aussi dans ton long discours. Merci beaucoup pour toutes ces...
Désolé si je parle un peu trop,
hésite. Tu viens de parler un peu de la stratégie, en fait, de Twitch. Donc, on rappelle, donc Twitch fait partie, a été racheté par Amazon, et donc est complètement déficitaire, donc perd constamment de l'argent, car Twitch nécessite quand même des infrastructures et, en fait, des financements qui sont assez conséquents pour le stockage, notamment pour le stockage, parce que par exemple, toi tu fais quand même 3 streams de 4h30, mais t'es vraiment pas le seul, et il y a des streamers qui font des streams de 6h tous les jours, on va dire. Donc tout ça, ça nécessite un stockage pour ensuite regarder, permettre de rediffuser ces vidéos sur la plateforme du streamer. Et bien sûr, en fait, le live avec la circulation des données, etc., tout ça, ça nécessite beaucoup de financement. Et donc, pourquoi Amazon a racheté Twitch ? Ça, c'est une stratégie que je n'avais pas forcément compris jusqu'à ce que tu m'expliques certains détails. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet avis ?
Alors, bon, je ne suis pas dans la tête des exécutifs d'Amazon. Hein. Mais en effet, donc, Twitch se développe d'abord avec... Donc, au début, c'est des gens qui créent un truc où ils font un concert en direct. C'était un peu musical. Et puis très, très vite, les joueurs de jeux vidéo s'y sont mis, etc. Et l'intérêt pour Amazon, c'est aussi le développement de Amazon Prime et notamment Prime Gaming. Dans le sens où Amazon a développé... Enfin, s'est lancé sur le marché du jeu vidéo de façon assez massive, dans le but aussi de devenir une plateforme d'édition dans le jeu vidéo, alors même une plateforme de diffusion de tout ce qui est l'industrie autour du jeu vidéo. Donc on parlait de l'e-sport, donc les compétitions sportives de jeux vidéo qui ramènent des sponsors, ramènent du public, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on peut se demander, c'est bizarre d'investir dans quelque chose qui est déficitaire. Mais en réalité, alors bon, et c'est un truc, c'est aussi une question qu'on peut se poser aujourd'hui vis-à-vis de aussi l'avenir de la plateforme. Mais le but d'Amazon, c'est aussi tourner vers le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo, éventuellement l'industrie des séries, bref, l'industrie du divertissement en règle générale. La politique n'a rien à voir avec la danse. C'est pour ça qu'en fait, quand on arrive avec la niche politique, on arrive un petit peu pas en pirate, quoi, mais on n'était pas invité. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, le système pour rechercher des diffusions sur Twitch, tu peux rechercher ce qu'on appelle des tags. Donc tu vas mettre, je sais pas, par exemple le nom d'un jeu vidéo, et du coup tu vas trouver tous les gens qui font le jeu vidéo. Bon. Et il y a des tags qui sont de discussion, il y a un tag politique. En réalité, la plupart des streams politiques sont sous le tag discussion, parce qu'il y a quasiment personne dans le tag politique, et du coup on fait un peu des deux, quoi. Bon, bref, mais donc tout ça pour dire que d'ailleurs le tag politique s'est développé un peu récemment. Enfin, il n'existait pas au début, quoi, on va dire ça comme ça. C'était pas prévu pour, on va dire. Donc c'est vrai que les gens qui arrivent... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des gens qui sont... des streamers qui sont sur Twitch depuis longtemps et qui sont, eux, des streamers jeux vidéo, des streamers divertissement, etc. et qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de la niche politique ou de la niche du React, en règle générale. Donc le fait de réagir à des vidéos et tout. C'est parce que, tout simplement, l'intérêt purement économique d'Amazon... est tourné vers l'industrie du jeu vidéo. Donc, il y a l'angoisse que les efforts de la plateforme commencent à être tournés, voire à s'angoisser de cette niche-là concurrente. Et du coup, comment on police, est-ce qu'on met en place une censure politique ou pas, etc. On a par exemple les exemples de beaucoup de streamers d'extrême droite qui ont été très vite bannis de la plateforme. Parce que ils sont arrivés sur une plateforme où les injures raciales, les appels à la haine sont interdits. Ce qui est bon, un truc assez états-unien, mais en tout cas une modération qui est assez efficace là-dessus. Ça faisait pas peur jusqu'à ce que aussi les gauchistes ont commencé à se dire « Ah mais zut, attends, un tel qui s'est fait bannir parce qu'il a dit le mot PD, moi qui suis moi-même PD, qui suis radical, et on sait dans les milieux LGBT radicaux, oui, on dit PD, ça s'appelle retournement stigmate, tu prends l'insulte et tu le reprends pour toi. Est-ce qu'on va être embêté pour ça aussi ? Est-ce que ce genre de... Voilà, est-ce que si appel à la violence, terrorisme d'extrême droite, etc., est-ce que si je parle de action directe, ça va être considéré comme de l'appel à la violence. Donc, il y a aussi beaucoup ces questions-là de censure qui se posent. Mais de base, Amazon veut simplement a une stratégie qui est sur l'industrie du jeu vidéo, qui est sur une industrie mainstream, qui évite au maximum la politique et qui a d'ailleurs ses propres problèmes et ses propres questions politiques avec donc, ce qu'on appelle le Gamergate, qui a été une vague de harcèlement notamment de créatrices de contenu autour du jeu vidéo qui justement pointait du doigt le sexisme et la misogynie dans les jeux vidéo et qui voilà, ça a été une vague de harcèlement d'extrême droite qui a d'ailleurs lancé toute une génération de personnes qui sont politisées à l'extrême droite aux États-Unis par le Gamergate et qui sont progressivement arrivés sur des contenus plus fascistes. Donc bref, le jeu vidéo a eu des propres problèmes avec la politique. Ils veulent pas s'embarrasser de ça, on va dire. Donc la niche politique arrive un peu comme une espèce de... Voilà, on n'était pas invité à la fête, mais on vient quand même et on espère bien rester.
D'accord, donc en fait, pour l'instant, on sait pas trop le futur. Pour l'instant, ça va. Mais on ne sait pas trop le futur de la politique de Twitch par rapport à ce contenu, au tag politique et au stream politique. Mais ça se développe quand même pas mal, ça continue sa route depuis quelques années déjà. Twitch a eu déjà beaucoup, quelques difficultés par rapport à, par exemple, le week de Twitch ou encore la politique récente en fait du financement des streamers aussi. Donc il y a quand même pas mal de petites polémiques qui bouleversent un peu de temps en temps le monde Twitch et de ses créateurs, mais ça persiste, ça continue et ça vit quand même, c'est bien.
Ouais, mais c'est qu'au final, on est des producteurs captifs et ubérisés, en fait, au final. C'est ça, c'est qu'à l'origine, Twitch avait mis en place, par exemple, un système de tarifs préférentiels. En gros, bon, pour vous expliquer un petit peu l'économie de Twitch, Twitch, c'est le principe d'une économie du don. Donc, quand on est sur un stream, d'où l'importance d'interagir avec son chat, parce que ça aide aussi à convaincre les gens de donner de l'argent. Il y a plusieurs paliers qu'on peut faire. On peut prendre ce qu'on appelle un abonnement sur la chaîne, où on paye, je crois, c'est environ 4€, 3,99€, pour être, du coup, abonné à la chaîne. Et le streamer, donc le responsable de la chaîne, peut décider que l'abonnement te donnera accès à certains privilèges. Par exemple, alors, le privilège de base, c'est que tu as le droit, il y a des petits emojis personnalisés, du coup, tu peux les mettre, et du coup, tu peux dire, voilà, tu peux avoir ton petit emoji personnalisé. Bon, ça, c'est le privilège de base, c'est à peine, voilà, c'est un petit truc, c'est petite croquette un peu comme ça. Mais par exemple, il y en a certains qui peuvent décider que les gens ne peuvent interagir dans le chat que s'ils sont abonnés. Ce qui est un peu bête parce que du coup, tu ne crées pas les conditions de la fidélisation, mais bref, bon, c'est un peu bête. Ou alors, tu ne peux avoir accès aux rediffusions des émissions que si tu es abonné, par exemple. Voilà. Il y a certains paliers de privilèges. Moi, j'ai mis 0 palier de privilèges pour les abonnements. Simplement, être abonné, ça t'évite d'avoir de la pub que Twitch met automatiquement. Ensuite, tu peux donner ce qu'on appelle des bits. C'est-à-dire que voilà, tu achètes tant de quantité de bits à Twitch et tu les dépenses dans un chat. Donc, ça veut dire que le streamer reçoit l'équivalent en euros de ce que tu as acheté en bits. Bon. Une espèce de... C'est pas une monnaie virtuelle, mais bon, c'est un truc d'échange, quoi. Ou alors, tu peux faire des dons directs avec des plateformes extérieures. Tu peux mettre, tu peux mettre ton lien PayPal. Tu peux mettre ton lien qu'on appelle Streamlabs, où tu peux faire des dons directement. Et voilà, donc, c'est une économie du don.
Radio Libertaire aussi, un peu.
Bien donc, sûr, Radio Libertaire. Mais en fait, comment dire,
Radio Libertaire, il n'y a que des bénévoles. Mais par contre, si y a quand même ce système de donation, donc... On est sur Radio Libertaire 89.4, il est 17h16, donc n'hésitez pas à faire des dons pour Radio Libertaire.
Mais de toute façon, quand t'as pas l'infrastructure étatique derrière toi, comme le service public, quand t'as pas l'infrastructure Bolloré derrière toi, évidemment tu deviens une économie du don. Quand on regarde, je sais pas, des médias comme Blast ou comme Le Média, ou du coup comme Radio Libertaire, ça se repose uniquement sur les contributions des auditeurs. Et c'est pour ça, je pense que cette économie d'Internet aussi est favorable au contenu de gauche, dans le sens où Twitch, malgré tout ce qu'on peut dire sur le côté capitaliste, etc., et sur la part que Twitch prend sur les revenus, ça je vais en venir, mais mine de rien, ça normalise l'idée de faire des dons pour soutenir un contenu politique que tu aimes. Là où, par exemple, sur des trucs un peu classiques, t'es en mode, bon, voilà, c'est... Voilà, bon, pourquoi je ferais un don à ce truc-là? Bon, j'ai l'habitude de l'avoir gratos. Voilà, il y a une espèce de sentiment de
c'est gratuit.
Ouais, c'est ça, de gratuité, c'est ça exactement.
Puis ça oblige aussi le créateur de contenu à créer un contenu pertinent et intéressant.
Ouais, aussi. Ça c'est le revers de la médaille libérale. Ça c'est la partie libérale que j'aime bien dans Twitch. C'est que évidemment, si t'es un mauvais animateur, ouais. Si t'interagis pas avec ton chat, si tu laisses des silences pendant trois plombes, bah très évidemment que personne va s'intéresser à ce que tu fais. Mais du coup, ça te pousse à être le meilleur propagandiste possible pour tes idées politiques. Donc il y a ce côté-là. C'est pour ça que je suis. Bref, j'ai parfois le côté libéral, il peut avoir du bon. Mais où est-ce que je veux en venir ? Oui, du coup, donc cette économie du don, Twitch prend une part des revenus. Sauf quand tu utilises ce système de, où tu mets, je sais pas, le lien de ton PayPal. Bon, du coup, bah, les gens ils donnent directement sur PayPal, ça passe pas par Twitch. Mais quand tu prends des abonnements, quand tu offres des bits, Twitch en prend un certain pourcentage. Donc, au début de la plateforme, Twitch avait un système de contrat préférentiel avec les plus gros streamers, donc ceux qui récoltaient le plus d'argent et qui avaient le plus de flux en fait et de personnes qui venaient sur leur stream. C'était en gros, je crois que c'était des contrats à 70-30, un truc comme ça. Donc voilà, donc le streamer récupérait 70 et Twitch ne prenait que 30%. Et récemment, ils ont annoncé la fin de ces contrats, ou alors du moins que les gens qui étaient sous ces contrats-là, ce serait à partir de tant, comment dire, à partir de tant d'euros, les euros supplémentaires repasseraient en 50-50. Bon, bref. Toute cette question-là des financements, bon, il y a deux choses. Déjà, le fait que, bah, comme tout travailleur des plateformes, on est soumis aux décisions d'une entreprise qui, du jour au lendemain, peut fermer le service et on se retrouve sur la paille. Donc, il y a cette précarité-là qui est pas très confortable, mais on fait avec. Bon, c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Mais aussi, il y a l'aspect que Twitch, donc, comme tu disais, Twitch est déficitaire. Donc, je pense que d'un point de vue économique, peut-être qu'ils veulent aussi un peu resserrer la bride. Et aussi, à l'époque où Twitch avait mis en place ses contrats de partenariat spécifiques, Twitch était encore dans une angoisse que ces gros streamers se barrent chez la concurrence. C'est-à-dire que, on va dire aux alentours de, je crois que c'était vers 2016-2017, t'as eu certains streamers qui sont partis de Twitch pour aller rejoindre une nouvelle plateforme concurrente. Je sais même plus comment elle s'appelle, c'est vous dire si elle est morte.
Il y en a eu plusieurs. Toutes les années, en fait, il y a une plateforme qui essaie de concurrencer ou en fait essaie de, par exemple, faire des contrats avec des streamers Twitch pour les reprendre.
C'est ça.
Et essayer de ramener des gens sur leur plateforme. Il y a eu des plateformes peer-to-peer, il y a eu des plateformes, enfin, je veux dire, dans le Web 3, l'économie du Web 3. Il y a eu des plateformes un peu plus, par exemple, le YouTube Live qui essayait de concurrencer Twitch. Il y a eu différentes tentatives, et même aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe, l'un des plus gros, par exemple, streamers sur Twitch, états-unien, je crois, qui est parti justement pour cause de ces problèmes de financement et cet changement de politique au niveau des financements Twitch. Mais du coup, c'est vrai que chaque année, il y a des nouvelles plateformes, et même avec le leak de Twitch. Donc le leak qui est en fait Twitch a les données en fait qui étaient de Twitch ont été un peu libérées sur Internet, et donc le code d'Internet et certaines données personnelles, que ça soit des streamers mais aussi des spectateurs, ont été révélées. Et donc ça pose aussi la responsabilité, bien sûr, du traitement des données personnelles au niveau de ces plateformes là et de leur utilisation. C'est le cas avec toutes les GAFAM. On pourrait faire cette critique là avec toutes les GAFAM, notamment avec cette politique qui est différente, que ça soit en France en Europe plus généralement, et aux États-Unis, où en fait finalement les données elles sont aux États-Unis. Mais après, c'est des politiques qui sont différentes. Mais du coup, par rapport au financement, je te laisse revenir
sur ça. Et bah, du coup, donc face à cette concurrence permanente, les contrats partenaires spécifiques de Twitch, ça permettait aussi de garder un petit peu le contrôle sur les streamers pour éviter qu'ils se barrent. Notamment, bah, l'autre grosse plateforme concurrente, c'était YouTube. Mais très très vite, Twitch a aussi pu établir son monopole pour des raisons assez simples, qui sont que les outils de Twitch sont très faciles à utiliser. Genre, c'est en termes de plateforme de streaming, enfin YouTube Live, ça c'est un peu plus c'est un peu plus moche, tu sais pas où te situer, etc. Voilà, il y a dans Twitch, il y a quand même un développement autour de la technologie du stream et de l'accessibilité qui est assez spécifique. Donc au final, Twitch a quand même réussi à établir son monopole, ce qui fait que bah, maintenant Twitch est certain de son monopole et peut se permettre de payer un peu moins ses streamers, ou alors de lâcher un petit peu, de détendre la bride sur ses contrats partenaires, parce que bah, ils n'ont plus besoin de ça en fait pour convaincre les consommateurs et les streamers que bah, si tu veux devenir streamer, la plateforme c'est Twitch, parce que YouTube, la partie live, elle est pas ouf, les chats ils sont mal modérés, il y a pas de filtre de spam automatique, enfin voilà, la modération elle est nulle à chier. Les autres plateformes, alors si Twitch s'est donné fuite, alors les autres plateformes, les données personnelles, c'est encore moins ce qu'ils en font. Et bah, généralement, c'est des serveurs qui peut-être peuvent moins se permettre d'avoir autant de données, de flux, etc. Voilà, donc, de fait, et ça, c'est voilà, la structure du capitalisme néolibéral international qu'on connaît aujourd'hui, c'est bah, forcément, la prime est au plus gros et Twitch s'est constitué en étant le plus gros, et notamment grâce à Amazon.
D'accord.
Et selon toi, ce serait quoi les désavantages du coup de Twitch ? C'est un peu justement qui favorise peut-être les plus
gros streamers. Comment dire ? Objectif ou comparatif ? Parce que des avantages comparatifs, pour moi, il n'y en a pas.
Ouais.
Par rapport aux autres plateformes.
Ouais, ça. Plutôt objectif, ouais, du point de vue du streamer.
Du point de vue du streamer.
Ils sont forts.
Je suis trop biaisé. Non, ils sont trop forts. Mais non, je pense. Alors, oui, il y a une critique souvent qui est faite sur le fait que les streamers, notamment, qui ont énormément de succès, voilà, on montre beaucoup en exemple les gros streamers. Mais d'ailleurs, il y a des articles assez intéressants qui étaient sortis sur il y a tout un monde de Twitch des streamers à zéro viewer ou un viewer. Ouais. Et ça, c'est une mare de
80% de...
Ah, exactement, c'est fou, quoi. En fait, ce qui fait que quand tu commences à atteindre les paliers qui te permettent d'avoir... retirer de l'argent de ce que tu fais sur Twitch, il y a un certain palier de régularité, un certain palier de nombre de viewers et un certain palier de...
D'heures à faire, non, aussi.
D'heures à faire, c'est ça. Quand tu passes ce palier, t'es déjà dans le 1% de la plateforme, quoi.
Ouais.
Donc ça c'est un truc dingue, et c'est un truc qu'on dit pas souvent, ouais. Et c'est vrai que ça, quand même, Twitch repose aussi sur l'aspiration, enfin ce fameux piège du néolibéralisme, du libéralisme en général, c'est l'aspiration à arriver au top, alors que l'existence même du top dépend du fait que tu décolles pas, en fait. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'on pourrait poser justement la question de ce fonctionnement-là assez pyramidal et assez élitiste de la plateforme et de la en fait, comment dire ? Parce que du coup, les gros streamers payent pour les plus petits, concrètement. Parce que les gros streamers payent pour l'entretien des serveurs qui font vivre les plus petits. Et en même temps, Twitch ne veut pas non plus empêcher les petits de streamer parce qu'ils savent que bah, c'est ce qui les maintient aussi sur la plateforme. Donc, ouais, non, je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, et ça, c'est sur la production de contenu sur Internet en général, qui repose énormément là-dessus. Peut-être un peu moins sur YouTube. Parce que YouTube est plus décourageant que Twitch. Parce que Twitch, tu peux jouer à ton jeu vidéo, tu lances le stream, au pire, tu t'en fous, quoi. YouTube, il y a quand même de la valeur de production, tu dois enregistrer, monter et tout. C'est plus vite décourageant, du coup, t'as moins de petits YouTubeurs qui restent toute leur vie petits, quoi. Enfin, en tout cas, à l'échelle de Twitch. Enfin, à l'échelle de c'est quoi être petit pour Twitch. Mais, en effet, on se pourrait se poser la question de... je sais pas... Après, est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il y ait très peu de barrières à l'entrée du streaming qui entraîne ça aussi ? Je sais pas, j'avoue, je sais pas exactement comment on pourrait remédier à ça.
Après, du coup, ce chiffre de 80% en fait de streamers qui sont à 1 ou 0 viewers, ça va être déjà une barrière, enfin que maintenant le public il aura un peu plus. Et maintenant moi j'ai beaucoup moins envie de faire des streams en me disant oula, j'aurai peut-être un viewer pendant un an et après j'aurai peut-être 10, oula. Mais par contre il y a des stratégies justement où la solidarité, il peut se développer une solidarité entre les streamers.
C'est ça.
Et c'est là où on voit aussi le développement des différents cercles. Et justement, quand j'ai parlé de niche, c'était un concept qui regroupait, bah, du coup, peu importe, des acteurs sans forcément de lien, mais au sein de ces niches de thématiques ou de ces niches, bah, là, du coup, la niche politique, à l'intérieur, il peut y avoir une solidarité entre certains viewers ayant pas forcément le même point de vue, mais en tout cas ayant se connaissant, des connaissances, ou à travers plusieurs liens différents. Et notamment, là, je voulais en venir à Zawa Prod et Zawa Sphere. Parce que du coup, je vais te laisser le présenter.
Zawa Prod, c'est le nom. Enfin, voilà, en gros, donc Dany et Raz ont monté une boîte de production. Ce qui est tout con, en fait. Simplement, c'est pour pouvoir légalement retirer l'argent que tu gagnes sur Internet. Quoi. Genre, c'est juste, voilà. Soit t'es en auto-entreprise, soit t'es à deux comme Dany et Raz. Et du coup, tu fais une boîte de production. Quoi. Et du coup, moi, je suis produit par cette boîte de production, puisque c'est plus pratique que ça passe par là. Et aussi, tout simplement parce que j'ai été formé aussi en tant que streamer par eux. Donc voilà, je travaille avec eux au quotidien. Voilà, c'est toute une entreprise.
Une transmission de connaissances.
Une transmission de connaissances, une transmission de capital. Voilà. Et puis une amitié aussi, une loyauté qui est assez forte. C'est aussi une histoire d'amitié, Zawa Prod. Donc il y a un peu, il y a ce truc Zawa Prod où Dany et Raz et moi, on est un petit peu ce truc où on est les streamers. Une des raisons pour lesquelles aussi j'ai eu du succès aussi vite, c'est parce que le public de Dany et Raz me connaissait. Du coup, quand j'ai commencé à me lancer, les gens qui me connaissaient chez Dany et Raz sont venus chez moi. Parce que tout simplement, il y avait ce truc-là de « Ah tiens, nouveau streamer, on va aller regarder ça ». Et ça a été le cas aussi pour d'autres personnes qu'on connaissait parce qu'ils interagissaient beaucoup dans le chat, qu'ils étaient assez présents ou alors qu'on les connaissait et tout, et qui ont commencé à dire « Ah tiens, j'ai lancé ma chaîne », etc. Et qui ont commencé à faire leur propre stream. Et du coup, le public va naturellement aller voir parce qu'ils savent que ça émane de la même sphère et même d'une sphère qui est les mêmes, on va dire, les mêmes façons de parler, le même humour,
les mêmes expressions, etc. On pourrait faire tout un dictionnaire en fait de Zawasphère et de ces petits mots incroyables.
Il y a une petite familiarité, on va dire. Mais en fait, et c'est aussi surtout des gens aussi à qui Dany et Raz se sont dit vas-y, on leur fait de la pub, on leur fait un coup de pouce, parce qu'en fait, il y a ce que tu disais, hein, c'est très très juste, c'est la question de la solidarité sur Twitch, parce que jusqu'ici, j'ai décrit un petit peu les rapports entre streamers comme un rapport de concurrence permanente. Voilà, les anciens du jeu vidéo qui se méfient des gens de la politique, les gens de la politique qui se méfient des gens qui sont lisses, etc. Enfin, même nous-mêmes, on se sent un peu parfois en concurrence, même concurrence très cordiale avec certains autres streamers. C'est très compliqué, du coup, quand tu te sens en situation de concurrence permanente, de simplement donner de la force à un nouveau créateur ou une nouvelle créatrice, et lui envoyer ton public. Parce qu'évidemment, parce que ton public, du coup, il va peut-être aller dépenser son argent là-bas et pas chez toi, en estimant que lui, il est plus petit, du coup, il a plus besoin, et que toi, ça y est, t'es déjà gros. Ou alors, peut-être que du coup, si cette personne-là stream en même temps que toi, du coup, il va y avoir des gens qui vont préférer cette personne. Et bon, voilà. Donc, il y a beaucoup d'angoisse concurrentielle liée à ça, qui fait que c'est une réalité un peu tabou. Mais que des streamers, du moins quand ils ne se connaissent pas et quand ils ne sont pas amis entre eux, ils ont pas beaucoup, enfin, ils ont tendance à se méfier les uns des autres quand ils sentent en concurrence. J'ai un exemple, je n'ai pas forcément envie de les citer parce que c'est pas voilà. Mais j'ai un exemple d'un univers de streamers dans le monde politique qui, en fait, parce que donc sur Twitch, il y a ce qu'on appelle des raids. C'est-à-dire que quand tu t'apprêtes à arrêter ta diffusion en direct, tu peux décider d'envoyer tout ton public sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Et c'est une façon qui est incroyable dans Twitch pour donner de la force à un autre créateur, pour envoyer plein de gens, un créateur qui n'a que 20 personnes, tu l'envoies 300 personnes, et voilà, c'est d'un coup, ça y est, t'as des gens pour interagir. Et donc, certaines personnes dans cette niche politique qui, à force de petites bisbilles personnelles, de « Ah, tu m'as pas envoyé de raid à ce moment-là, ah, machin truc, etc. », on finit par ne plus jamais se raid et ne plus jamais s'envoyer de force, et en fait, totalement s'isoler mutuellement et assécher un petit peu leur audience. Parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qui fait que Twitch fonctionne et que les audiences continuent de rester fortes? C'est qu'elles tournent. En fait, généralement, même quand on regarde, moi, quand je regarde les plus gros donateurs sur mon stream, tu vas voir, au printemps, ça va être un tel, et ensuite, cette personne va un petit peu moins regarder, et puis après, il y a une autre personne. Enfin, en fait, Twitch, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent sur les streams et qui se fidélisent, et puis après, qui s'en vont. Et en fait, il y a une espèce de durée de vie, en fait, de l'auditeur, qui est assez particulière comme ça, mais qui fait que, du coup, beaucoup de personnes, lorsqu'elles n'interagissent pas avec d'autres streamers, n'interagissent pas avec d'autres communautés, n'envoient pas de force à d'autres streamers, etc. Il y a un autre système, c'est que les raids, ça sert aussi à faire sa pub, tu vois, genre, je t'envoie 300 personnes, regarde, je suis un gros streamer quand même, les gens dans le chat, attention à moi, souvenez-vous de mon pseudo et allez me voir, quoi. Il y a aussi une façon de se faire la pub sur le dos de quelqu'un, bon, il y a aussi ça. Mais En tout cas, ce système de raid permet, enfin, donne les conditions de possibilité à cette solidarité-là entre streamers, et notamment quand tu partages une petite niche. Simplement, il faut, enfin, comment dire, cet aspect-là concurrentiel revient assez vite, très souvent, dès qu'il y a une petite, parce que voilà, forcément, dès qu'il y a une angoisse économique, l'angoisse de, ah tiens, ce mois-ci ça a un peu moins donné, ah tiens, tel autre streamer, j'ai vu à tel moment dans son stream, ah ça a beaucoup donné, alors que ça se trouve, cette personne aussi, sur ce mois-là, ça a baissé comme tout le monde, tu vois, t'en sais rien. Mais t'as un peu ce truc-là de, tu finis beaucoup par te regarder mutuellement avec paranoïa avec les autres streamers. Mais cela dit, Twitch, c'est quand même, encore une fois, une plateforme qui permet une solidarité, et même limite, c'est un truc qui avait été expérimenté pendant la campagne de Mélenchon. C'était de faire un stream caritatif où t'envoies une cascade de raids sur les chaînes les uns des autres. Donc on va dire, moi je commence et ensuite je vais raid Dany Raz, et Dany Raz ils vont raid je sais pas qui, etc. Et c'était une façon finalement presque d'entretenir une espèce de radio toute l'après-midi, mais avec les différents streamers. C'est-à-dire que tu les envoies sur telle île, puis sur telle île, etc. Bon, ça marche pas tant que ça parce qu'il y a de la déperdition entre chaque raid. Mais il y a un truc là-dedans où on peut même... tu peux même consommer Twitch en passant d'une chaîne à l'autre comme tu passerais d'une émission à l'autre à la télé, mais simplement c'est toi qui crée ton propre bouquet. Et en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque chose de concurrentiel de par la structure économique de laquelle dépend Twitch, mais c'est aussi des outils. Pour moi, l'outil est neutre, tu vois. L'outil est neutre et la structure ne l'est pas. Et l'outil en soi permet cette solidarité-là et permet la création de ce genre de sphère qui se donne de la force et s'encourage mutuellement, etc. J'ai trop parlé encore, je suis désolée.
Non, pas du tout. Tu résumes assez bien tout ça, donc on peut revenir sur la sphère, du coup, sur les différents acteurs et les différents streamers qui la composent. Et même moi, je n'arriverais pas à dire combien il y a de personnes dans la sphère. Parce qu'il y a Moufette, Seth Krohn, bien sûr Dany Raz, avec le tronc commun de Cassandre. Qui j'oublie encore
Il n'y a pas eu, aller à la Bibli, Bamwempan. Calivision d'une certaine façon, parce que mon Calivision il faisait déjà des streams à l'époque. Mais en tout cas, il a été assez présent dans le chat et puis on est assez proche, puis on se parle quoi. Mais bon, lui il est un petit peu extérieur. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est que cette Zawasphère, en fait, c'est simplement des gens qu'on connaissait de par notre public. Soit ils avaient déjà commencé à faire des lives, soit pas du tout. Donc Kali, donc il fait déjà des lives depuis longtemps. Lui, il est dans le monde de la radio, justement, à l'origine. Et en fait, j'ai ramené une autre plateforme. Hein, désolé pour les plus âgés qui écoutent et qui connaissent pas trop ça. J'ai ramené une autre plateforme dans le lot. Un autre mot à reconnaître, c'est en fait, beaucoup de streamers entretiennent aussi le lien avec la communauté, ou alors simplement, trouve des inspirations et des discussions quotidiennes sur la plateforme de discussion qui s'appelle Discord, où en fait c'est une plateforme de discussion sur laquelle il y a plusieurs salons, les gens peuvent interagir sur différents sujets, etc. Voilà, c'est une espèce de forum privé mais sur une application tierce. Et en fait, tout simplement, dans les différents Discord, il y a des gens qui ont commencé aussi à dire, ah bah tiens, moi je fais des lives de tel truc, ah bah tiens, moi j'ai commencé tel truc, etc. Et du coup, naturellement, le public qui est sur Discord, c'est plutôt le public qui suit le plus assidûment la chaîne et les émissions, et du coup, ils vont aller voir avec curiosité ce qui se passe. Et on a vu du coup que, en tout cas, je pense Dany et Raz, ils ont dû voir, et puis même moi aussi, que ces gens-là commençaient un petit peu leur stream. Moi aussi, j'ai vu ça pour des gens de mon public et tout. Alors qu'ils me disaient, ah tiens, je vais faire un live sur tel sujet, est-ce que ça t'intéresse, etc. Je me dis, ah, mais bien sûr. Donc, t'as ce genre de truc parce qu'en fait, il y a un ton spécifique qu'ont développé Dany et Raz, qui est un ton volontairement irrévérencieux, parfois insultant, assez radicalement de gauche, mais toujours critique envers le gauchisme un peu trop forcené de certains, on va dire. Enfin bref, il y a un ton spécifique, qui est le ton spécifique à Dany et Raz, et qui, du coup, convainc des gens dans son public, et des gens qui, après, vont aussi faire infuser ce genre de ton dans leur propre façon de faire des émissions. Et ce qui fait que il y a une espèce de... Pas de camp politique, parce que j'ai pas envie d'appeler ça une espèce de camp politique, mais on va dire... de façon de faire qui n'est pas forcément unanime auprès de tous les producteurs de contenu sur internet et des autres streamers politiques, mais qu'on tient à développer et qu'on tient à voir plus émerger un contenu un peu plus critique, un peu plus irrévérencieux et tout. Et du coup, ces personnes-là qui ont commencé à lancer leur stream, bah, je pense à Krone, qui a repris un peu ce ton un peu insultant, un petit peu, mais en rajoutant un truc en plus, un peu qu'on peut appeler girl boss, tu vois. Genre, c'est vraiment la meuf un peu dominatrice et qui va pas s'en laisser compter et qui va t'insulter quand elle le veut, quoi. Genre, ce truc-là vraiment. Ou alors d'autres comme Moufette qui. A un petit peu plus le côté qu'il y avait un peu au début, le côté un peu philosophique. Voilà, tu te poses avec un joint, tu discutes, tu parles de trucs un peu intimes, etc. Voilà, plus cet aspect-là. Et en fait, beaucoup, beaucoup d'aspects qui ont énormément plu au public propre à Dany Eraz, qui après, du coup, pour d'autres gens qui se retrouvent dans ce ton et qui, avec leur propre ton, qui, ou alors même un ton semblable, veulent lancer leur chaîne, bah, du coup, très très vite, c'est on vous conseille d'aller voir, si vous voulez plus de streamers, aller voir le contenu de Krone. Elle fait aussi de l'analyse politique, elle fait aussi ça et tout. Très naturellement, en fait, ça se fait. Parce que tout simplement, ça peut être parfois des gens qui deviennent des amis ou des connaissances plus proches. Et bah, du coup, tout simplement, bah, t'as juste envie de, de les encourager et de leur donner de la force et de leur envoyer du public parce que tu crois aussi à ce qu'ils font. Je pense un exemple de. Typiquement, Pazu d'Azibik, hein, le petit dernier, qui s'est lancé récemment dans le streaming, pareil, hein, streaming politique, etc. Et lui, il ajoute à ça qu'il fait aussi du streaming sur le sport, donc sur le foot, le MMA aussi, qui pratique la boxe, etc. Et il y a ce truc-là de, Dany, qui aime beaucoup les sports de combat, qui fait énormément de sport, qui aime bien la muscu, etc. Il s'est dit, même si c'est un peu balbutiant, même si le son il est pas ouf, même s'il faudrait revoir un peu la caméra, la gestion du logiciel de streaming et tout, je crois en ce qu'il fait. Je crois en ce truc de mélanger la gauche et le sport, de rendre le sport populaire, tu vois, ce truc comme ça. Et rien que parce que tu crois en ce truc-là, et du coup, tu donnes la force. Et si ça foire, tant pis. Mais si ça réussit, ça fera un nouveau discours qui aura émergé, quoi.
C'est ça. En parlant de nouveaux discours, justement, je voulais me tourner un peu plus, du coup, sur la question des publics. Sur la question, comment est perçu tout ça, par exemple, par vos publics, mais plus généralement aussi par les publics. Par exemple, là, on a parlé un peu... j'ai pensé à la gauche no cap quand t'as parlé. Je sais pas si cette expression, elle est toujours valable. Mais du coup,
faut l'expliquer un petit peu. No cap, c'est une expression qu'on tire du rap. Enfin, c'est une expression d'argot états-unien qui veut dire
sincère,
parler vrai, quoi. Mmh. Et genre, c'est que à un moment, il y a un an et demi, je sais pas. Dany Eraz avait beaucoup cette posture-là, une posture d'outsider, et notamment à l'époque, ils étaient très très précaires chacun dans leur vie. Eraz qui vivait dans un squat, Dany qui avait pas franchement de domicile fixe. Enfin, Dany Eraz ont commencé dans des conditions matérielles assez chaudes pour commencer le stream. Et du coup, il y avait ce truc-là aussi d'outsider vis-à-vis du reste de la gauche internet qui considérait trop lisse, etc. Et du coup, il y avait ce truc-là, qui était une expression qui était dite par aussi les gens qui fréquentaient le squat où vivait Eraz, truc de dire no cap. En mode pour dire en vrai, en fait, c'est je parle vrai. Et du coup, il y a eu un peu ce truc là de on est no cap dans le sens où on dit les choses telles qu'elles sont, on dit les choses vraies, mais ça a jamais été une espèce d'idéologie politique, c'était juste une expression de bandeur, quoi.
Oui, mais bon, on la retrouve des fois sur les articles, sur internet, etc.
Oui.
Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'était par exemple, quand moi j'ai atterri un peu dans justement les arrêts sphères. J'ai été un peu... Il y a quand même cette forme d'entrée. Déjà, il faut avoir le dictionnaire. Des fois, je me soutenais sur d'autres explications dans le public, dans le chat. Mais justement, il y avait aussi cette question de... ce ton un peu, des fois provocateur, des fois insultant, mais en même temps, on rigole, etc. Il peut, des fois, ne pas forcément être perçu de cette manière-là. Et donc, en fait, finalement... la perception du public, elle peut être très différente pour chaque stream et pour chaque contenu. Donc que ça soit Radio Libertaire aussi, il y a tout un langage. Des fois, quand certaines émissions parlent, etc. Moi, je suis un peu en PLS par rapport aux termes qu'ils utilisent, etc. Mais après, c'est toute une question d'apprentissage aussi.
Il y a un folklore, il y a une esthétique. Et l'esthétique de Dany Eraz s'est beaucoup construite en rejet du reste des contenus de gauche qui se faisaient sur Internet. Soit parce qu'ils étaient trop, trop lisses. Ou alors soit parce qu'ils étaient trop dans le folklore de gauche. Il y a un aspect où, oh, je suis désolé, je dis ça sur les ondes de Radio Libertaire. En plus, j'ai beaucoup écouté Radio Libertaire, surtout le soir, j'écoutais beaucoup de musique, du coup. Mais il y a un aspect du folklore de gauche qui paraît parfois un peu passéiste, un peu idéaliste, ou alors même repoussant. Parce que tu te dis, oh, voilà, ces gens qui parlent de Kropotkin, je dois aller lire des livres pour ça. Genre. Il y a un côté un peu excluant, même en termes de classe. Quoi. Et ce qui fait que Dany et Raz, ils sont construits totalement contre ça, en se disant, ce qui fonctionne, nous, notre esthétique, nous, on a grandi avec le rap, nous, on a grandi en banlieue, on a grandi avec des streamers, justement, comme Rebeu Déter, Amine Mathieu, etc., du divertissement, qui est considéré par les gens qui n'ont aucune lecture politique ni aucune lecture de classe comme du divertissement mainstream, lisse, alors que n'importe qui un peu de gauche voit que s'ils font des blagues de gauchistes entre eux et juste ne se voit pas, quoi. Mais donc, bref, ce truc-là de cette esthétique qui fonctionne, qui est celle avec laquelle on a grandi, on va pas aller la renier juste parce que on est de gauche et que du coup, il faut avoir une esthétique qui colle pour bien montrer patte blanche qu'on est vraiment de gauche. Et en fait, c'est ce qui fait que des gens ont accusé Dany et Raz d'être un peu confusionniste sur le plan politique parce que esthétiquement ça ne ressemblait pas à ce qu'ils avaient l'habitude de voir comme production de gauche, parce que je sais pas, il devait manquer de lecture politique pour savoir que le contenu était de gauche. Bref. Mais en tout cas, cette question esthétique, c'est un truc qui revient beaucoup parce que il y a aussi un ras-le-bol esthétique sur aussi ce que peut proposer la gauche, que ce soit une façon de se réfugier dans certains trucs passéistes ou certains trucs un peu trop parfois, très socialisme du 21e siècle, on va faire la révolution, mais avec des logos bien lisses, des logos bien lisses refaits avec une petite étoile et une petite feuille. Pardon, le PCF.
Bon.
Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il y a cette question-là esthétique qui est assez présente dans la réflexion et qui est centrale à tout ça, et même d'un point de vue de propagande politique. La propagande, c'est toujours poser des questions d'esthétique et de, en fait, comment est-ce qu'on crée des affects, de l'humour qui soient de gauche sans avoir besoin de sursignifier qu'ils sont de gauche.
Merci du coup pour ça. Avec Maxime, on avait prévu de faire passer un petit micro-trottoir.
Ok.
Donc c'est parti, mais en fait... c'est pas parti parce que on n'a pas pu réaliser ce petit micro-trottoir tout de suite. Par contre, on peut donner un petit aperçu de nous-mêmes, nos pratiques médiatiques en tant qu'étudiants ici, et peut-être, en fait, on a eu déjà 3 ans d'études médiatiques, on connaît un peu nos camarades, on peut essayer de dire un peu globalement ce qui se passe dans nos classes, dans nos...
Ouais, de ce qu'on sait des jeunes, c'est que de toute façon, la télé n'est plus trop regardée. À part que ce soit pour des événements sportifs. Et encore, même les événements sportifs, il y a beaucoup de gens qui vont les regarder via Twitch, avec des gens qui réagissent via Twitch. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Beaucoup consomment YouTube, encore un peu de radio, mais c'est peu aussi. Pas mal de podcasts. Les podcasts, j'ai l'impression, remontent un peu depuis que Twitch marche aussi. C'est toute une nouvelle génération qui se...
Ouais. Y a un développement assez paradoxal dans les formats, c'est que... on parle beaucoup du fait que notre génération, c'est une génération du temps court, qu'on n'a plus aucune capacité de concentration parce qu'on n'arrête pas de scroller. Il y a TikTok, c'est des vidéos de 20 secondes, etc. Mais en fait, il y a à la fois le développement de TikTok et de la consommation très courte de contenu, et à la fois Twitch et du contenu extrêmement long, les podcasts qui sont... Et en fait, c'est ces deux choses-là qui se sont développées ensemble. Et de façon, pour moi, c'est à la fois un temps très très court, donc une capacité de compréhension rapide, et en même temps du temps très très long sur lequel tu vas beaucoup plus soit te concentrer, soit t'autoriser à te déconcentrer, à te reconcentrer plus tard. Donc d'où le développement des podcasts, de Twitch, en parallèle de ce truc du temps très court de TikTok.
Ça rejoint aussi ma propre pratique médiatique, en fait. Moi, ce qui est confus, en fait, dans ma pratique aussi, c'est entre Twitch, justement, les lives qui sont 4 heures, etc., et par exemple des podcasts que je peux retrouver sur YouTube ou encore sur d'autres plateformes ou les sites, en fait, eux-mêmes créateurs de podcasts. Du coup, ces contenus-là se mélangent un peu dans leur forme et des fois dans leur fond, et ça fait que je peux consommer, en fait, des contenus qui sont très très longs, justement en fond, comme tu peux le consommer aussi, comme on peut tous des fois le consommer. Par exemple, la télé peut être aussi consommée en fond par la plupart des ménages en France, mais pas qu'en France. Et donc, toute cette consommation, c'est soit des podcasts très très longs pour moi, que ce soit sur justement Twitch, YouTube, etc., soit des contenus plus produits, plus cut. Cut, ça veut dire coupé, c'est-à-dire les moments de silence sont coupés. Du coup, donc ces contenus-là qui sont plus préparés, on va dire, cuisinés, j'ai un peu faim, ça se sent. ces contenus qui sont préparés et qui sont prêts et qui sont plus courts que les uns les autres et qui résument un peu tout ça. Et c'est notamment une stratégie que j'ai vue arriver sur toi, que ça soit de tes streams en fait, de faire des résumés et de les poster ensuite sur YouTube. Est-ce que tu veux en fait produire, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Enfin, qu'est-ce qui se cache?
On dit souvent les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais bon, à l'ère d'Internet, les paroles s'envolent, les vidéos YouTube restent. C'est que, en fait, moi, j'ai toujours été un gros consommateur de YouTube, notamment des vidéos de vulgarisation. Donc, j'ai parlé de ce que faisait Dany à l'époque. À l'époque où j'étais au lycée, à l'époque, j'avais révisé le bac et je regardais ses vidéos sur la philo, quoi. Mais bref, j'ai toujours été un gros consommateur de YouTube. Et sur le YouTube états-unien, s'est développé ce qu'on appelle des vidéo-essais, c'est-à-dire des formats un peu longs qui développent une thèse autour d'un sujet, que ce soit une thèse sur, je sais pas, typiquement sur la masculinité par exemple, ou alors autour d'une série ou d'un film, qui dit bon bah tel film, voilà, qui va faire une analyse un petit peu de tel film et puis qui va agrandir sur des thématiques de société et tout, enfin bref. Qui sont pour beaucoup, notamment à l'époque où YouTube poussait beaucoup pour des contenus assez courts, pour des contenus de 10 minutes environ, où il y avait la place de placer deux pubs et puis c'était tout, ce genre de contenu dénoté, parce que c'est des contenus de 40 minutes, 1 heure. Il y a quoi, en ce moment, là, j'ai une vidéo que du coup je regarde en petit bout, qui dure 6 heures sur une seule saison d'une série. Parfois, il y a des espèces d'exercices de style aussi comme ça qui sont vraiment pendant 4 heures, je vais te parler de tel truc alors que c'est hyper anecdotique. Enfin bref, c'est assez drôle. Mais du coup, voilà, cet exercice de style qui a ramené un petit peu de temps long sur YouTube et aussi du temps long et de réflexion politique parce que tout le contenu un peu plus politisé, un peu plus de gauche qui s'est développé à ce moment-là sur YouTube états-unien s'est développé au travers de ce genre de format de vidéo-essai. Vidéo-essai, oui. Et du coup, moi, pour moi, ça a toujours été une espèce de format roi. Et ça, alors, je vais l'emprunter à un live où deux streamers en parlaient. Mais tout comme les sociologues ont, en gros, il y a deux types d'ouvrages. C'est les ouvrages d'intervention, où ça va être Bourdieu qui parle d'un sujet d'actualité, de société, etc. Et des ouvrages de théorie. Je ne sais pas si on dit ouvrage de théorie ou s'il y a un nom spécifique dans le jargon. Enfin bref. Mais en tout cas, tu vas avoir un ouvrage de théorie et un ouvrage qui va plus commenter l'actualité politique. Et je crois que c'était Usul qui disait ça à Léo. Ah bah tiens, Léo Jacotte, autre personne un peu qui peut être identifié à la Zawasphère. Tout simplement parce que c'est un pote, en fait. Enfin bref. Mais... Et donc, il lui disait un petit peu que finalement, Twitch et YouTube, c'est un petit peu ça. Twitch, c'est beaucoup du contenu d'intervention, où tu vas beaucoup parler de l'actualité, où tu vas faire un contenu qui finalement est plus ou moins périssable, on va dire. Parce que quand même, moi, sur Twitch, je réagis beaucoup à des documentaires qui peuvent être un peu du contenu un peu moins périssable que de l'actualité. Mais en tout cas, YouTube, ça va être la place, le lieu d'un contenu plus impérissable, où toutes les théories que tu développes dans tes lives, toutes les opinions, toutes les prises de position, etc., tu peux les condenser dans une vidéo qui va rester, qui va être une vidéo de référence. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai commencé un peu à produire des vidéos sur YouTube. Donc, la première vidéo sur donc les TERF, donc le mouvement des féministes anti-trans notamment. Et j'ai d'autres projets de vidéos, que ce soit sur l'histoire du proféminisme, par exemple, ou alors même des portraits de personnes, ou même des débats un petit peu qui agitent les questions LGBT, les questions féministes, ou même le monde politique en règle générale, quoi. Et donc, pour moi, voilà, YouTube et Twitch sont totalement complémentaires, dans le sens où YouTube va cristalliser et figer ce que je dis quotidiennement sur Twitch, quoi. Parce que, voilà, c'est une vidéo sur les TERF. La moitié des trucs qui sont dans cette vidéo, si vous avez suivi mes lives pendant au moins un an, je vous ai tout spoilé, quoi. Il y avait déjà tout là-dedans, quoi. Mais en même temps, quelqu'un qui est arrivé dans un live où je commençais à parler du sujet, Il y avait des gens qui avaient vu tous mes lives depuis un an et du coup qui étaient au courant de toutes les références, de trucs, les petites blagues que je faisais là-dessus. Et quelqu'un qui était en mode, attends, du coup ça veut dire quoi, TERF, etc. Donc je sais qu'aussi avec ce genre de contenu, ça permet de faire avancer, on va dire, dans le sens où il y a des paliers d'avancement. Quand tu as l'habitude de parler, de parler, de parler, de parler, comme ce que je suis en train de faire là, il y a des moments où il faut acter que... Voilà, il faut acter tel sujet, et puis après, on dépasse et on parle d'autre chose, quoi, parce qu'on ne va pas toujours répéter les mêmes évidences. Un peu ce que je disais tout à l'heure sur quand on est de gauche et qu'on a l'impression de tout le temps répéter les mêmes théories et tout. Bon, bah, c'est un peu pareil sur Twitch. Genre, un peu ce truc-là, de un moment, j'ai aussi envie de dire, bon, bah, allez, on passe au stade supérieur, c'est bon, la vidéo, elle est sortie, le sujet, il est là, si ça vous intéresse, moi, je vais aller sur un autre sujet, quoi.
D'accord. Pour en revenir un peu sur les publics, faut relativiser. Au début, quand on préparait l'émission, en tout cas moi, quand je préparais l'émission, je me suis dit, c'est vrai que je m'attendais à des fois que ça soit dans le public, par exemple, de Radio Libertaire, à avoir un public, par exemple, plus âgé, en fait, qui est né avec cette lutte, par exemple, des militants CGT, la cinquantaine, etc. Mais finalement, faut dire que j'ai discuté avec une amie qui travaille à Publico, donc la librairie de la Fédération anarchiste, et qui m'a dit que Publico est fréquenté un peu par tous. Certes, il n'y a pas forcément une grande majorité de jeunes, mais ça existe quand même, et des curieux et différentes, toutes formes de personnalités, toutes formes de personnes. Et pareil pour Twitch. Donc en fait, je m'attendais à ce que, par exemple, les pratiques médiatiques des étudiants, de mes amis, etc., Twitch soit présent. Et finalement, quand j'ai posé la question plusieurs fois dans mes classes, on n'a pas vraiment de classe, mais quand j'ai posé la question aux étudiants, rares sont ceux en fait qui utilisaient, qui regardaient et qui regardaient Twitch. Et ceux qui regardaient justement majoritairement pour des contenus de jeux vidéo, etc. Et c'est d'ailleurs, Maxime, je crois que tu m'as témoigné de la même chose.
Ouais, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis pas forcément politique, ouais. C'est plus pour regarder des jeux vidéo, du sport, du divertissement, comme tu disais, Mine m'a tué. Un peu ce qui remplace un peu la télé aussi, quoi.
Oui, c'est ça. Et donc, finalement, le discours, il est un peu plus nuancé maintenant. C'est de dire que finalement, les jeunes, ils ont des pratiques médiatiques. Moi, ce que je me pose vraiment la question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme pratique, enfin, qu'est-ce qu'on veut comme média dans plus tard. Par exemple, moi, je veux pas... les médias, la concentration des médias et les problèmes qui sont dans les médias actuellement, avec que ce soit les milliardaires, l'influence du champ politique sur le champ médiatique, et plein de sujets qui sont hyper importants, dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui. Bah, tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes et assez peu de médias indépendants. Il y en a, heureusement, mais comme on l'a dit, la France descend de plus en plus dans le journalisme. C'est-à-dire qu'il y a une forme de gradation, de numérotation sur... dans tout le monde. Quelle est, je ne sais pas comment... l'éthique journalistique. D'accord. Maxime va y aller.
Je suis vraiment désolé, hein. C'est à la SNCF qu'il faut s'en prendre, mais je vais prendre un train, il y a trop de grèves demain pour les fêtes.
Oui, c'est normal.
Pas de souci.
Mais en tout cas, pour continuer un peu là-dessus, il nous reste à peu près 5-10 minutes. Donc, pour continuer la question des publics, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire.
Sur quel média on va...
Ah oui, c'est ça, sur quel média. Quel média on voudrait voir développer la télé. C'est un média, j'ai l'impression qu'il va quand même continuer un peu sa route, qu'il continue toujours. La radio, pour l'instant, elle continue aussi, et j'ai l'impression que ça, c'est forcément... il y a encore un grand public qui écoute la radio, et bienvenue, et super. Internet continue de se développer et accueille de plus en plus de publics divers et variés, et notamment justement des personnes plus âgées qui s'intéressent de plus en plus à ça et qui découvrent tout ce champ-là. Moi, ce que je consomme beaucoup, par exemple, c'est des contenus d'actualité politique, que ce soit les tiens, par exemple, Cassandre, de Zawa Prod, etc. Mais aussi des petits contenus sur les réseaux, des petits contenus sur YouTube. Et je dois dire que ma consommation, souvent, c'est Hugo décrypte le soir. Et c'est d'ailleurs le cas de plusieurs étudiants. Et,
il était dans ma promo à Sciences Po, d'ailleurs.
Bah, écoute, ça arrive. Et du coup, j'ai demandé aussi la pratique médiatique des autres étudiants. C'était majoritairement les réseaux sociaux et justement Hugo Técrypte ou en fait des youtubeurs d'actualité qui font des courtes vidéos assez résumées de l'actualité, un peu neutralisées bien sûr, mais bien sûr, un peu neutralisées, lissées comme tu as pu le dire. Mais du coup, ces contenus-là. Maintenant, la question de qu'est-ce qu'on veut voir dans le futur. C'est vrai que j'aimerais bien voir quand même Twitch garder cette niche politique, peut-être se voir développer d'autres aussi médias et d'autres formes médiatiques qui seraient intéressantes. J'imagine pas, j'exclus pas la possibilité que d'autres plateformes viennent, en fait pas forcément similaire à Twitch, mais par exemple on a vu émerger des plateformes de podcast récemment et plus du contenu justement audio, d'où le lien aussi avec les radios et en fait les podcasts. Ce podcast que vous allez retrouver, j'espère, sur Radio Libertaire durant les créneaux 16h30-18h. Est-ce que pour conclure, tu pourrais nous dire que toi, ta vision du futur de ta chaîne et de toi?
Bah, oula, ma vision du futur sur ma chaîne. Je sais pas trop. J'avoue, j'ai très peu tendance à me projeter parce qu'il y a aussi. Ce que j'ai appris à la fois en tant que militant et en tant que streamer, c'est la souplesse vis-à-vis du contenu et de la possible, des possibles évolutions politiques. Voilà, comme moi je fais pas mal d'actualités politiques au final, et je veux rester en tout cas dans cette logique de l'actualité politique, de ce décryptage-là, je sais pas trop, en termes de format, j'ai pas envie de me rigidifier non plus. Après, j'ai fait un format qui était à la fois en public et en live, où j'étais dans une salle dans une petite salle de spectacle, un petit café-théâtre de stand-up, et où j'avais fait une émission entière sur l'art du drag, donc les drag queens, les drag kings et tout, avec une drag queen qui était invitée pour animer le truc. Et j'aimerais bien refaire périodiquement un petit peu ce genre de format d'émission, notamment parce que je sais que dans mon contenu, j'ai du contenu d'actualité, mais j'ai aussi du contenu plus de vulgarisation un petit peu, que ce soit de l'histoire des luttes, que ce soit de l'histoire des luttes de gauche, l'histoire des luttes LGBT, etc. Donc voilà, ça c'est un contenu que j'aimerais bien refaire quand j'en aurai l'occasion, et même ça permet de se poser un petit peu sur quelques sujets. Je sais qu'il y a des sujets comme, je sais pas, le logement que j'ai beaucoup envie d'aborder, et je sais pas comment rendre ce sujet sexy pour les gens, c'est terrible. Mais... enfin voilà, et pour revenir à ce que tu disais, je suis très 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 court. Moi je me méfie un peu de la fuite en avant vers internet et de la fuite en avant vers les nouveaux contenus, dans le sens où, d'un point de vue militant, moi je veux toujours me battre et militer pour un service public de qualité, pour des médias de qualité, parce que en tant que streamer, je suis tributaire des journalistes. Quand je vais regarder Élise Lucet, je suis bien content de regarder Élise Lucet, et quand je regarde une interview de Ruffin par Salamé, je me dis, oh putain, les questions de journalistes de merde quoi, genre est-ce qu'on peut pas avoir des intervieweurs de bonne qualité? Donc bon, je pense que mine de rien, on peut se poser la question de l'évolution des contenus en fonction de la structure dans laquelle on est. Les médias traditionnels sont dans une structure de diffusion étatique. C'est la télé classique, c'est la bande FM, sur laquelle d'ailleurs se trouve Radio Libertaire, avec des modes d'attribution spécifiques, mais qui sont liés à l'infrastructure de l'État. Internet est lié à une infrastructure un peu différente. C'est une infrastructure qui est plutôt possédée par des entreprises privées, ou alors à moitié des États, à moitié des entreprises privées, c'est un peu plus flou à ce niveau-là. Mais en tout cas, les gros acteurs d'Internet, donc c'est pas l'État comme pour les médias traditionnels, mais c'est les grandes entreprises. Donc je pense que à chaque lieu de production de l'information médiatique, etc., il faut se poser la question de dans quelle structure on est et quels sont les problèmes de cette structure. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envie de dire, pour moi, le futur des médias et le futur d'Internet, c'est aussi un futur où le service public devient véritablement éthique et de qualité, et où on peut se remettre à On peut arrêter de faire de la critique médiatique classique et on peut enfin dire « Ah, je vais écouter cette émission, bon, il y a toujours des biais dans le journalisme, mais ça devrait être à peu près fiable. »
En tout cas, on peut souligner la difficulté à se projeter, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour à peu près tout le monde, même pour les journalistes eux-mêmes.
Oui, bien sûr. Donc, on est dans des périodes de crise politique, de crise économique. Et quand je parle de crise, c'est pas que tout part à volo, c'est que c'est une période de reconfiguration. Tu parlais du Web 3. Mmh. Ouais, on parle beaucoup du Web 2.0, le Web 3, le Web 4, etc. On sait qu'il va y avoir des nouvelles modalités d'expression et d'existence et que, en tant que petit gauchiste minoritaire dans notre coin, on pourra que essayer de hacker ces plateformes et continuer à faire entendre notre voix, quoi. Donc, faut voir. On est toujours malheureusement, tant qu'on gagne pas dans les urnes ou autre part, on sera toujours en réaction au final aux structures qui nous sont imposées.
Et je trouve que c'est une très belle conclusion pour aujourd'hui. J'aurais bien aimé te poser plus de questions, par exemple, sur les questions LGBT, mais c'est vrai que ça rentrait pas forcément dans le format.
C'est pas grave, il y aura peut-être d'autres occasions.
Oui, il y aura peut-être d'autres occasions, et de toute façon, tout ça est déjà disponible sur ta chaîne Twitch. Donc, si vous voulez découvrir, en fait, Cassandre avec son discours, avec ses streams, avec ce langage aussi, ce serait bien de faire quand même un dictionnaire. et si vous voulez un peu découvrir tout ça, jetez un coup d'œil. Sinon, je vous laisse avec la prochaine émission de Radio Libertaire qui va bientôt passer, et peut-être avec un au revoir de ma part. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Il est 18h03 et on est sur Radio Libertaire 89.4, et je laisse la suite. Merci beaucoup, Cassandre.
Merci à toi.